Une autre langue, un autre monde, un autre horizon, une autre histoire, mais des mots et des faits similaires. Colonisation, domination, pillage, violence, identité brisée, ignorance.
Pascal Paradou.
Les sables de l'empereur se déroulent au Mozambique à la fin du 19e siècle, période de la colonisation portugaise de ce pays de l'Afrique de l'Est. C'est d'abord un roman signé Miyakuto et c'est aujourd'hui une pièce de théâtre adaptée et mise en scène par Victor de Oliveira. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la spécificité de cette colonisation portugaise? Est-ce que c'est sa durée? Parce que c'est presque 5 siècles.
Oui, effectivement, il y a la durée, puisque les anciennes colonies portugaises sont celles qui ont pu arriver à leur indépendance le plus tard. Donc, une fois que la révolution des œillets en 74 a eu lieu, donc le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert aussi, donc ont eu enfin en 75 donc leur indépendance. Effectivement, ça c'est une des particularités. Et l'autre, je dirais que c'est aussi lié à une politique qui était appelée par les Portugais la politique d'assimilation, parce que donc les pays lusophones ce sont des pays extrêmement métissés, qui étaient quelque chose vraiment voulu par le pouvoir portugais, parce que effectivement, comment un si petit pays pouvait gérer un si grand empire. Donc c'était une façon en fait de créer ce qu'ils eux-mêmes ont appelé, les historiens disent qu'ils ont appelé donc la troisième race. Donc il y a un énorme métissage, pas simplement donc blanc-noir, mais blanc-noir, indien, chinois, puisqu'il y avait dans mon pays d'origine, donc le Mozambique, tout un des échanges évidemment avec l'océan Indien, donc la Chine, l'Inde, avec des comptoirs comme Goa, Canton, Macao. Donc tout ça se retrouve au Mozambique. Donc ça, c'est très différent de la colonisation française, par exemple.
Comment est racontée cette colonisation, sachant que vous êtes né au Mozambique, c'est ce que vous venez de nous dire, oui, mais que vous avez beaucoup vécu et travaillé au Portugal et que vous vivez en France maintenant depuis une vingtaine d'années?
Elle commence depuis une dizaine d'années au Portugal, en tous les cas, à être retransmise d'une autre façon, puisqu'il y a tout un tas de gens qui essayent de raconter l'histoire différemment, évidemment. Beaucoup d'artistes aussi, pas tant au théâtre, mais plus sur des plasticiens, sur des artistes d'art contemporain, donc qui essayent de s'en emparer et d'avoir une autre narrative liée à l'histoire de la colonisation, puisque pendant très très longtemps le Portugal était un petit peu aveugle sur ces années de colonisation. C'est-à-dire que le Mozambique, par exemple, pendant très longtemps, dans la période post-indépendance, s'est fermé les yeux sur cette période en disant voilà, tout ça c'est existé, maintenant on doit être un pays, on est un pays jeune et on doit être un pays qui essaie de se construire à partir de ça. Donc ça, on ne parlait pas. Bon, après il y a eu aussi la guerre civile, mais au Portugal, moi, donc effectivement, donc je suis né au Mozambique, j'ai passé mon enfance au Mozambique. Ensuite, on a dû partir avec mes parents parce que c'était le début de la guerre civile qui a duré 16 ans, de 77 à 92 à peu près. Et ensuite, donc j'ai passé mon adolescence au Portugal. J'étais au lycée au Portugal. J'ai commencé à faire du théâtre au Portugal et je suis parti à 23 ans pour venir finir mes études de comédien à Paris. Mais pendant que j'étais donc adolescent, jeune homme au Portugal, l'histoire du Portugal qui m'était racontée effacer d'une certaine façon une bonne partie de la colonisation. Donc, en tout cas, ou alors, ce qui était raconté, c'était ce qu'on appelait donc les découvertes, tous les ans, le 10 juin, Et ça, j'en parle dans un autre spectacle qui s'appelle Limbo. Tous les 10 juin, ils commémoraient les découvertes. Donc, je me souviens d'être amené à donner une interview pour les commémorations des 500 ans des découvertes. Donc, tout ça, ce sont des choses. Depuis une dizaine d'années, commence à être discuté d'une autre façon, être présenté d'une autre façon.
Donc on peut dire qu'il y a un parallèle entre la colonisation portugaise et la colonisation française de ce point de vue-là, parce que cet effet de narration autour et de vérité autour de la colonisation française, elle se fait depuis très peu de temps en France. Ça reste encore un tabou. Et aussi bien les sociétés africaines d'ailleurs que la société française vit encore dans les soubresauts de cette colonisation et de cette décolonisation ratée, en fait.
D'une certaine façon, oui. Oui, vous avez raison, même si... Je vis en France depuis quelques années et moi j'avais plutôt l'impression que les Français avaient quand même réussi à qu'il y ait beaucoup plus de dialogue et qu'il y ait une même d'une façon officielle, c'est-à-dire qu'en France il y a eu un président qui s'est d'une certaine façon excusé, par exemple sur les choses. Les horreurs de la colonisation au Portugal, ça n'a jamais été fait. Donc, et ça reste encore aujourd'hui. Il y a très peu de temps, par exemple, à Lisbonne, ils ont inauguré ils ont restauré un monument historique. Et dans ces monuments, ils ont inclus quelque chose de nouveau où ils ont mis les blasons des anciennes colonies. Donc évidemment, c'est-à-dire que toute une partie de la communauté de la diaspora africaine ou même des afro-descendants était choquée parce que comment se fait-il que aujourd'hui encore, en plein 21e siècle, il puisse y avoir comme ça une façon de revenir à des choses aussi anciennes et aussi terribles.
D'où l'importance du roman de Mia Couto, Les Sables de l'Empereur, qui raconte cette colonisation, mais plutôt la fin, les dernières décennies, et les doutes d'ailleurs qui commencent à naître parmi les colons, et notamment dans le roman et dans votre pièce, Victor de Oliveira, dans l'esprit du sergent Germano, parce qu'il est envoyé pour participer à la colonisation, et il a bien conscience qu'il y a comme un raté.
Oui, en fait, Germano est un personnage extrêmement intéressant, parce qu'il effectivement, il va à Mozambique, parce que c'est la colonisation, mais... En fait, à la base, il a été envoyé parce qu'il a participé à Porto à un soulèvement pour faire tomber la monarchie. Donc, ce soulèvement n'a pas eu lieu, donc il a été raté. Donc, du coup, il a été emprisonné et ensuite envoyé aux colonies comme une punition au lieu d'aller en prison. Et quand il arrive là-bas, il arrive dans un petit village qui s'appelle Nkonkolani, qui est un village de fiction, mais comme plein d'autres villages qui existent véritablement. Et peu à peu, dans les rencontres qu'il fait avec la population et surtout avec une très jeune femme qui s'appelle Imani,
Dont il va tomber amoureux, mais avec qui il va avoir une relation amoureuse.
Oui, voilà, c'est mieux dit. Donc, du coup, en fait, peu à peu, il commence à comprendre et à se poser des vraies questions. C'est-à-dire qu'il pose des questions. Est-ce que nous dominons véritablement ces pays? Est-ce que un roi qui dit qu'il est le roi d'un empire et qui n'est jamais venu en Afrique, est-ce qu'il peut se prétendre au roi d'un empire qu'il ne connaît absolument pas. Donc, tout un tas de questions qui vont commencer à le miner, disons, et qui vont être extrêmement difficiles, puisque d'un côté, il y a le côté militaire où il faut bien faire les choses, et de l'autre côté, c'est un jeune homme qui commence à comprendre que ce n'est peut-être pas très bien ce qu'on lui demande de faire.
Et qui va tomber amoureux. On traverse donc l'histoire, les sentiments et les continents avec votre spectacle, Victor de Oliveira, spectacle en portugais et en xangane, et ce sera l'occasion d'en parler après l'impératrice Meda Igual, ça c'est de l'espagnol.
Je choisis pour moi, c'est pas les failles que t'as.
Émission grand style aujourd'hui sur RFI avec le groupe L'Impératrice et la pièce de théâtre Les Sables de l'Empereur, titre de la pièce de Victor de Oliveira et du roman de Miyakuto. C'est un énorme roman. Est-ce que c'était une évidence pour vous, Victor de Oliveira, d'en faire une pièce de théâtre ?
Oui. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à le lire, parce que je voulais absolument refaire quelque chose avec la plupart des comédiens avec qui j'avais déjà travaillé pour Incendios, donc le spectacle qu'on avait créé à Maputo en 2019. Donc, il me fallait trouver quelque chose qui soit juste à la fois par rapport à l'endroit où ils sont, dans leur théâtralité, avec les moyens qu'ils ont dans le cadre donc d'une ville comme Maputo et d'un pays comme le Mozambique, et en même temps qui puisse me permettre à moi, dans ma théâtralité à moi et dans le parcours qui est le mien, de fusionner et de continuer à chercher comment ces frontières peuvent être enlevées et comment ce qu'on appelle le théâtre africain ou européen puisse être tout simplement le théâtre. Donc ces questions-là sur la forme et le fond étaient très importantes, et en lisant le roman de Miyakuto, c'est devenu une évidence, parce que non seulement en termes formels de la littérature, donc il passe d'une chose à une autre, il y a une grande liberté, et cette grande liberté que l'auteur a me permettait à moi, mettant en scène, d'essayer des choses justement sur le plateau pour essayer d'enlever ces frontières qui peuvent encore exister.
Donc sur scène, une quinzaine de comédiens, beaucoup sont mozambicains, pas tous. Ils parlent en portugais, le spectacle est sous-titré, et en langue xangagne.
Xangane, en fait.
C'est quoi cette langue?
Le Xangane, c'est une des langues du Mozambique. Le Mozambique a à peu près une vingtaine de langues. Il y en a 5 qui sont les plus importantes et qui sont vraiment liées à des régions, qui sont évidemment, enfin, liées à des régions et à des tribus, mais surtout à des régions. Donc, et le Xangane, c'est la langue qui se parle au Mozambique. Il y a le Xangane, il y a une autre langue qui est un peu dérivée, qui s'appelle le Ronga. Mais après, par exemple, au centre du Mozambique, là d'où vient ma famille, qui a la deuxième ville, qui s'appelle Beira, on parle le Sène. Mes grands-mères me parlaient en Sène. Et après, dans le nord, il y a d'autres langues. Donc toutes ces langues-là, elles existent, et les gens, c'est vraiment leur langue maternelle, dans le sens où la mère et le père leur parlent d'abord dans cette langue-là.
Mais pourquoi avoir choisi le Xangane pour ces comédiens,
parce que c'est la langue que l'empereur parlait. en fait. C'est la langue que l'empereur parlait, que tous les Shanganes, donc puisque l'empereur Ngugunyan vient du premier roi qui s'appelait le Shoshangan, c'est la langue que eux ils parlaient. Toute cette région là, donc parce que l'empereur il s'appelle l'empereur de Gaza, Gaza qui n'a absolument rien à voir avec le Gaza qu'on connaît, donc c'est
très étrange d'ailleurs d'entendre ça.
Ça se dit exactement pareil, ça s'écrit exactement pareil, mais c'est vraiment une région au Mozambique qui s'appelle Gaza. Et donc l'empereur de Gaza, à qui on appelait le lion de Gaza, donc lui, toute cette région parle Shangan. Après, dans l'histoire de Miyakoto, il y a donc cette autre tribu auquel appartient Imani, le personnage principal, et eux, ils parlent le Shop. Sauf que dans la pièce, ils parlent tous le Shangan, parce que pour moi, il était difficile d'avoir aussi des comédiens qui parlent le Shop.
Alors, la question de la langue est centrale dans le spectacle, car justement, Imani parle cette langue, le Shangan, et elle est interprète. Elle a appris le portugais auprès d'un prêtre, mais sa langue maternelle, c'est le Shangan. Le fait d'avoir deux langues, en fait, est très compliqué pour elle. Parce que on a l'impression qu'elle est considérée comme vendue aux colons parce qu'elle parle portugais.
Oui, absolument. Donc parce que c'était, comme vous avez dit tout à l'heure, donc l'action se passe fin 19e, et à ce moment-là, évidemment, il y avait de la part de beaucoup des Mozambicains une résistance très grande. Donc l'empereur Ngugunyan est resté pour l'histoire comme celui qui a résisté le plus longtemps contre les Portugais. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a une immense statue et il est adoré par tous les Portugais. C'est vraiment un héros national parce que lui il a résisté. Et Imani, parce qu'elle a avec ses frères, elle a été éduquée dans un collège de prêtres jésuites, donc elle a appris le portugais, et parce qu'elle a appris le portugais grâce aux missionnaires, elle peut devenir interprète, donc d'abord pour Germano et ensuite pour l'empereur. Mais tout ça est très très mal vu, parce que ça veut dire que elle a dû accepter de faire comme les blancs.
Et à ses yeux, elle le vit mal aussi, parce qu'à un moment dans le spectacle, elle dit « je voudrais être noire », comme si la langue effaçait la couleur de sa peau, et comme si la langue la coupait de ses ancêtres.
Absolument.
Donc c'est une crise d'identité pour elle.
C'est une crise d'identité parce qu'elle part du principe que c'est le fait de pouvoir communiquer avec les autres, le fait de pouvoir s'en emparer de cette langue-là et d'une certaine façon des coutumes des Blancs, la coupe de ses ancêtres. Et d'autant plus que donc les missionnaires, parce qu'il y avait beaucoup on parle aussi de la place des missionnaires dans le spectacle, donc ils étaient censés devenir catholiques pour une grande majorité, donc c'est se couper de tout ce qui est lié aux ancêtres, de tout ce qui est lié des coutumes qui viennent de très 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 loin. Donc et ça aussi on en parle, parce qu'il y a une scène qui se passe avec ce qu'on appelle la curandeira, donc on pourrait dire sorcière, chamane, qui est extrêmement importante parce que ce sont des coutumes qui existent encore aujourd'hui et qui font que les Portugais, les Mozambicains peuvent à la fois être catholiques ou musulmans, parce qu'il y a toute une partie du Mozambique qui est musulmane, être catholique ou musulman ou juif ou protestant, et être très lié aux coutumes et qui viennent de loin et qui sont très très, très
Imani, ancrés. Le prénom, ça signifie quoi?
Qui est là?
Elle porte bien son prénom.
Absolument. En fait, elle le dit au tout début dans son texte de début. Voilà.
Spectacle donc en portugais, en Shangan et en français pour une scène où vous jouez Victor de Oliveira, un médecin pressent la fin de la colonisation et le risque d'être expulsé. Alors la prise de son est assez lointaine, donc il faut tendre l'oreille.
Dès qu'ils pourront, ils nous expulseront. Ils ont besoin de trouver un coupable.
Ils ne peuvent pas nous expulser. Nous n'avons tous pas le même droit, les catholiques et les protestants, de travailler ici en Afrique. Les traités européens n'ont pas été signés.
Les traités ne défendent pas. Antonio Ennis veut que je retourne à manche à glace et que je parle avec Ngugunyan pour éviter la guerre. À la fin, il m'a menacé. Il Il m'a dit que si un affrontement militaire se prend fait repérer, les Portugais ne feraient pas distinction entre Villa Africa et traîtres suisses.
C'est grave, George.
Vous commencez à arranger nos affaires. Les enfants, ils vont débarquer d'ici le plus vite possible.
Ah, il y a une jeune femme et son père qui sont ici. Ils viennent du Cocolette, ils vont parler avec Cocolette, qui est ici.
Ici?
Il vous attend à l'hôpital, il est arrivé la nuit dernière.
Et que veut Cocolette?
Il dit qu'il se sent mal.
Il a raison de se sentir ainsi. Ce n'est pas lui qui est malade, c'est l'Empire qui est parvenu à sa fin. C'est tout, désert en masse. Les soldats fuient la faim et vivent dans les villes, retournent sur les lieux que vous auriez enlevé.
L'Empire est malade, dit le personnage, dit votre personnage, Victor de Oliveira. Et on en revient aux conditions de la colonisation, car en fait, les colons n'ont rien appris de l'Afrique et de ses cultures. Miyakuto dit que son livre, Les Sables de l'Empereur, est un roman sur l'incompréhension. Vous êtes d'accord?
C'est une... oui, sur l'incompréhension, parce que... Il y a encore tellement de choses, de non-dits, et même entre les personnages. C'est-à-dire que c'est effectivement, il y a une histoire d'amour, mais comme dirait la chanson, parce que les histoires d'amour se finissent mal en général, celle-là, je ne veux pas spoiler, mais c'est une histoire d'amour belle et difficile à la fois. Donc, et après, il y a les rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes entre eux, donc entre les blancs et les noirs. Donc, il y a beaucoup de ces, même entre les métis, parce qu'il y a aussi un prêtre, le métis qui est autour et qui, pour qui c'est aussi difficile. C'est les rapports humains qui sont compliqués.
Donc, et puis, les rapports aussi politiques, les rapports de gestion avec cette question, comment gouverner ceux, que nous ne connaissons pas? Et c'est une question assez majeure. Il y a un personnage qui dit aussi que l'Europe a cru conquérir l'Afrique, mais en fait, elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'a rien compris à ce qu'était l'Afrique.
Parce qu'elle est venue juste pour conquérir, justement. Donc, c'est-à-dire que tous les Portugais, quand ils arrivaient, il y avait très peu d'échanges. C'est-à-dire que le Mozambique, avant même que les Portugais arrivent au Mozambique, bien avant, les Arabes étaient déjà arrivés au Mozambique. D'ailleurs, Mozambique vient d'un nom d'un sultan arabe, s'appelle Moz Alnbik. Donc, sauf que les Arabes, ils venaient juste pour faire du commerce. Ils n'y venaient absolument pas pour imposer quoi que ce soit. Ils faisaient juste du commerce. Les Portugais, ils arrivaient pour faire du commerce et tout d'un coup, peu à peu, c'est devenu de plus en plus important et le commerce est devenu la colonisation avec l'esclavage, avec la traite négrière, enfin tout ce qu'on connaît. Donc, c'est juste ce rapport-là qui était compliqué et dans la pièce, on voit un petit peu, puisque les personnages parlent de politique, ils parlent des Anglais qui voulaient avoir un petit peu du Mozambique, des Allemands qui venaient. Donc, et on sait, quand on regarde la carte de l'Afrique, comment les frontières étaient faites presque au compas. Donc,
les Européens donc, n'ont rien compris de l'Afrique, n'ont rien su de l'Afrique alors qu'ils ont voulu la dominer. Mais est-ce que cette question n'est pas valable pour nous aussi Européens? Que savons-nous de l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est pour cela, d'ailleurs, Victor de Oliveira, que vous travaillez en tant qu'artiste à faire découvrir les cultures africaines des auteurs africains en France et en Europe?
Certainement, c'est une bonne question, parce qu'il doit y avoir un peu de ça. C'est-à-dire que c'est aussi évidemment parler de là d'où je viens, de qui je suis, avec les moyens que j'ai, donc, mais en essayant de faire en sorte que ce dont je parlais tout à l'heure, que les échanges soient vrais, que les échanges soient forts, et que ces frontières qui nous éloignent, géographiques ou linguistiques, elles n'existent plus. Et pour ça, donc, ce projet qui a commencé par se faire en termes de répétition en Mozambique, ensuite est passé par le Portugal et ensuite maintenant nous sommes en France, que je puisse lier ce que j'appelle mes trois pays, mes trois socles, c'est une façon d'enlever ces frontières et de faire en sorte que les Européens puissent avoir un autre regard, oui, sur l'Afrique.
Oh!
Les sables de l'empereur, spectacle musical aussi, visuel, très visuel. J'ai presque envie de dire que c'est un grand spectacle parce que les décors sont légers, mais ils sont toujours très magnifiques, très spectaculaires, très, très visuels, avec presque rien. C'est pas des gros décors, mais la maison de Germano, par exemple, est représentée avec des voiles de tulle sur lesquelles sont dessinées l'architecture de sa maison. L'arbre, c'est une sculpture en corde qui est suspendue. Il y a du sable, des projections. C'est presque tout et c'est énorme. Est-ce que c'est votre marque, Victor de Oliveira, et est-ce que c'est une marque de théâtre africain ou européen?
C'est une bonne question parce que justement, j'aimerais bien que ces questions-là, elles puissent ne plus se poser d'une certaine façon pour aller au-delà, donc de pouvoir de ces frontières dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, effectivement, ce sont des choses dont j'ai envie, mais j'ai envie aussi parce que je n'avais pas peut-être suffisamment de moyens, mais en même temps, si je construis quelque chose au Mozambique avec les Mozambicains, je dois être à leur endroit. Donc je dois parler de l'endroit où ils sont aujourd'hui dans leur rapport au théâtre, dans leur rapport à l'art, pour un si jeune pays. Donc, et pour ça, il faut le faire avec peu, en essayant de trouver les meilleures idées, d'être le plus créatif et le plus inspiré possible pour faire avec peu, mais avec les moyens qu'ensuite la technique nous donne, qui sont, oui, la
avec
vidéo.
Avec d'énormes moyens, exemple, avec la vidéo, avec la vidéo, de la musique, oui, avec des éclairages incroyables.
Mais la vidéo, la lumière et les éclairages et le décor, oui, ils sont faits, par exemple, par des artistes française avec qui je travaille, qui était au Mozambique avec moi et qui se sont emparés de ce qu'elles ont senti, de ce qu'elles ont vu et qui ont travaillé. Donc du coup, ils ont travaillé avec les Mozambicains. C'est le fait de travailler ensemble.
Mais vous travaillez aussi avec les Mozambicains à l'année parce que vous faites des ateliers de formation. Est-ce qu'on peut dire, et ce sera la dernière question, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un théâtre mozambicain dans ce pays si jeune?
Il y a effectivement un théâtre mozambicain parce qu'il y a quand même quelques compagnies, mais c'est très 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 peu, et c'est encore un théâtre qui se fait avec très 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 peu de moyens. Donc il y a une école qui existe depuis les années 90, qui est un genre de conservatoire national auquel j'ai participé un petit peu en termes de conseils pour essayer de comprendre comment, dans un pays qui est aussi jeune, qui n'a pas un héritage théâtral comme l'Occident, comme les Européens, donc comment on peut avoir une école de théâtre, comment on peut avoir des professeurs qui forment sans qu'eux-mêmes aient été formés. Ce sont des vraies questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse, mais j'essaye de avec le lien que j'ai avec le Mozambique, avec ces projets et ces petits ateliers de formation, de créer quelque chose.
Pour l'avenir. Pour le quotidien, oui. Pour aujourd'hui et pour l'avenir. Oui. Merci beaucoup Victor de Oliveira. Les sables de l'empereur, donc votre spectacle se joue à la MC 93 jusqu'au 30 mars. Et puis ensuite, vous êtes à Chambéry dans quelques jours.
Le 3-4 avril.
Et ensuite, le spectacle tournera sur la saison 24-25. Oui. Et rappelons que le roman de Miyakuto est édité chez Métayer. Et on peut y passer quelques heures.
Dans une très belle traduction d'Elisabeth Montero.
De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Buffet à la réalisation. À très vite.